J'ai intitulé mon intervention finalement Le secret de Watteau, puisque de l'énigme picturale à biographique ou l'inverse, je ne sais plus très bien dans quel sens ça se passe. Mais j'ai choisi un peu en exergue de ce propos donc cette phrase des frères Goncourt sur le tableau dans un musée. En effet, si on désigne souvent le 19e siècle comme l'âge d'or des musées, cette affirmation montre bien les réticences qu'un tel essor a pu susciter. On reconnaît ici la méfiance de l'amateur, du collectionneur privé, à la garde d'une institution dont la vocation est d'inscrire l'œuvre dans l'espace public, de l'exposer non seulement aux regards, mais aussi aux paroles du plus grand nombre. Donc c'est un peu l'inverse du thème du silence. Les Goncourt suggèrent ici, à contrario, la nécessité, sinon d'une occultation, du moins d'une certaine intimité, d'une réserve, pour que se révèle une vérité ou un secret dont le tableau serait le détenteur silencieux. Dans les trois vies imaginaires de Watteau dont je vais vous parler, le texte se présente précisément comme cette voie d'accès détournée, réservée, au peintre et à son œuvre. Loin de la publicité du musée, c'est au contraire à distance, dans le silence et la solitude de la lecture, que la vérité de l'œuvre doit être recherchée. On verra donc comment chacune à leur manière, ces biographies de Watteau promettent au lecteur le dévoilement d'un secret qu'elles contribuent par ailleurs largement à construire et à inventer. Et je dirais même que c'est dans cette tension entre occultation et révélation du secret que réside le principe de leur écriture. Donc je vais vous présenter ici les textes dont je vais parler. Tout d'abord, la monographie, ou plus exactement le portrait consacré à Watteau par les frères Goncourt dans l'art du XVIIIe siècle. Ensuite, une vie de Watteau, intitulée « Un prince des peintres de cour », qui ouvre le recueil des « Imaginary Portraits » de l'écrivain anglais Walter Pater en 1887. Et enfin, la biographie ou la vie de Watteau, intitulée « Je veux me divertir », deuxième des trois vies imaginaires de peintre, réunies par l'écrivain contemporain Pierre Michon, sous le titre, lui-même un peu énigmatique, de « Maître et serviteur ». Donc ces trois textes, rapidement, pour les présenter un peu plus précisément, entretiennent pas mal de relations. Il s'agit à chaque fois de textes courts, publiés en recueil, et qui entretiennent aussi une relation de filiation, puisque Walter Pater, comme Pierre Michon, connaissent très évidemment le texte des frères Goncourt, et à travers ce texte, ils reprennent aussi les informations d'une vie plus ancienne de Watteau, que les frères Goncourt produisent, révèlent pour la première fois au public, celle du contemporain et ami du peintre, collectionneur lui-même, le comte de Caylus. Donc on a trois textes qui puisent à une même source biographique dite authentique. Et dans ces trois textes, il me semble que le passage à la fiction correspond justement à l'hypothèse d'un secret de Watteau et à l'élucidation qu'ils en proposent. Alors avant d'aborder ces trois récits, je vais cependant faire un détour et citer ou présenter un peu longuement une scène du Cousin Ponce de Balzac, roman paru en 1847, soit 10 ans après le portrait des frères Goncourt sur Watteau. Il me semble que cette scène illustre en effet parfaitement la réception de l'œuvre de Watteau au XIXe siècle et montre comment le secret est d'emblée associé à cette œuvre. Donc je situe le passage que je vais vous présenter. Nous sommes au début du roman et le vieux collectionneur, le cousin Ponce, se rend chez une de ses parentes, la présidente de Marville, de laquelle il espère recevoir une invitation à dîner. La gourmandise étant, c'est bien connu, le péché mignon du collectionneur. Alors pour amadouer cette femme, plutôt revêche et très méprisante à son égard, il lui offre un éventail peint par Watteau pour la marquise de Pompadour. Et il raconte comment il a découvert et négocié cet objet chez un brocanteur. Donc la scène est évidemment pour Balzac l'occasion d'illustrer cet art du chineur, qui est l'art, le génie véritable du collectionneur. Mais cette scène est aussi symbolique de la fortune de Watteau au XIXe siècle. Donc le peintre a été décrié pendant la Révolution. On raconte, c'est les frères Goncourt qui le rapportent, que les élèves de David au Louvre jetaient des boulettes de pain sur les tableaux de Watteau. Donc décrié sous la Révolution, oublié sous l'Empire, Watteau est progressivement redécouvert à partir des années 1830, d'abord dans le milieu des écrivains et des historiens d'art, avant de devenir l'objet d'une véritable mode, d'un engouement du public, et plus tardivement, d'entrer dans les collections publiques françaises. Donc la scène de Balzac que je vais vous présenter décrit justement cette exhumation d'une œuvre qui était restée jusque-là, en quelque sorte, un secret d'initié. Donc le cousin Ponce raconte à sa cousine son dialogue avec le brocanteur. Donc il s'agit d'un dialogue rapporté, au début duquel le brocanteur raconte comment il s'est rendu à Dreux pour acheter un lot de meubles anciens, parmi lesquels il a découvert un remarquable bonheur du jour de style Pompadour. Donc, en fait, c'est une série de découvertes. Donc, ici, c'est le brocanteur qui parle, tel que Ponce rapporte son dialogue. « Tenez, monsieur, me dit-il, je viens de trouver dans un petit tiroir fermé, dont la clé manquait et que j'ai forcé, cet éventail. » Vous devriez bien me dire à qui je peux le vendre. Et il me tire cette petite boîte en bois de Sainte-Lucie sculptée. Oh, lui ai-je répondu, la boîte est jolie. Elle pourrait m'aller, la boîte. Car l'éventail, mon vieux monistrol, je n'ai point de Madame Ponce à qui donner ce bijou. Et je dépliai négligemment l'éventail, contenant mon admiration, regardant froidement ces deux petits tableaux d'un laisser-aller, d'une exécution à ravir. Je tenais l'éventail de Madame de Pompadour. Watteau s'est exterminé à composer cela. Je lui dis un prix de l'éventail qui correspondait aux frais présumés de son voyage. Nous nous regardons alors dans le blanc des yeux, et je vois que je tiens mon homme. Aussitôt, je remets l'éventail dans la boîte, et je m'extasie sur le travail de cette boîte qui, certes, est un vrai bijou. Si je l'achète, dis-je à Monistrol, c'est à cause de cela, voyez-vous. Il n'y a que la boîte qui me tente. Quant à ce bonheur du jour, vous en aurez plus de 1000 francs. On peut exploiter cela, ça n'a pas été reproduit. On faisait tout unique pour Madame de Pompadour. Et mon homme, allumé pour son bonheur du jour, oublie l'éventail. Il me le laisse à rien, pour prix de la révélation que je lui fais de la beauté de ce meuble de Rissner. L'admirable pantomime, la verve du vieil artiste qui faisait de lui, racontant le triomphe de sa finesse sur l'ignorance du brocanteur, un modèle digne du pinceau hollandais, tout fut perdu pour la présidente et sa fille, qui se dirent en échangeant des regards froids et dédaigneux, quel original. Le vieux collectionneur veut cependant à tout prix obtenir son invitation à dîner, c'est pourquoi il lui faut absolument dévoiler à sa cousine ignorante la véritable valeur de l'objet qu'il lui a offert. Et comment savez-vous que c'est de Watteau, comment dites-vous ? Watteau, ma cousine, un des plus grands peintres français du XVIIIe siècle. Tenez, ne voyez-vous pas la signature ? Dit-il en montrant une des bergeries qui représentait une ronde dansée par de fausses paysannes et par des bergers grands seigneurs. C'est d'un entrain. Quelle verve, quel coloris. Et c'est fait tout d'un trait, comme un paraphe de maître d'écriture. On ne sent plus le travail. Et de l'autre côté, tenez, un bal dans un salon. C'est l'hiver et l'été. Quels ornements et comme c'est conservé. S'il en est ainsi, je ne pourrais pas, mon cousin, accepter de vous un objet d'un si grand prix. Il vaut mieux vous en faire des rentes, dit la présidente. Il est temps que ce qui a servi au vice soit aux mains de la vertu, dit le bonhomme en retrouvant de l'assurance. Il aura fallu 100 ans pour opérer ce miracle. Donc on voit comment effectivement la scène ici associe le secret à une œuvre fictive de Watteau. Dans un premier temps, le secret de l'éventail qui est matérialisé à la fois par le tiroir forcé et par la boîte. Donc ce secret n'est pas révélé, et c'est précisément ce silence qui permet à Ponce de conclure une bonne affaire. Dans un deuxième temps, devant l'indifférence de la présidente et de sa fille, le collectionneur dévoile finalement ce qu'il appelle la signature de Watteau. Alors cette signature n'est pas réelle, on sait que Watteau ne signait pas ses toiles, et sans doute encore moins vraisemblablement un éventail. Elle n'est autre que le style ou le génie de l'artiste, immédiatement visible pour l'œil initié du collectionneur. Le paradoxe de cette révélation, dont Pons, nous dit le texte, rougira rétrospectivement comme d'une prostitution, c'est qu'elle ne peut pas fonctionner. Et le dialogue montre bien que Madame de Marville est incapable d'apprécier cette œuvre autrement que pour la valeur marchande qui lui est attachée. Donc Madame de Marville, et le roman le confirme, restera jusqu'au bout totalement aveugle à la peinture de Watteau. Donc on a une sorte de jeu de dupe dans lequel le lecteur, si j'ai bien compris, est à la fois le tiers exclu, il ne peut pas voir l'éventail, et en même temps le véritable destinataire du secret de la peinture de Watteau, que le texte, d'une certaine manière, lui réserve. Pour célébrer l'apparente facilité de cette peinture, dans laquelle le travail est masqué par la verve du peintre, donc Pons célèbre cette fausse facilité, et il exalte la sûreté de son trait, comparable à un paraphe, c'est-à-dire précisément à une signature. Mais le plus révélateur, me semble-t-il, c'est la nature même de l'objet inventé par Balzac. L'œuvre géniale de Watteau se cache en effet sous l'apparence d'un objet précieux certes, mais d'usage quotidien, et surtout de taille modeste, que l'amateur peut saisir et manipuler, comme le marchand lui-même, mais dont seul son coup d'œil décèle la véritable beauté. Alors cet objet a deux faces, il nous fait bien sûr penser au célèbre bouclier d'Achille dans l'Iliade. Tout un monde y est représenté, à travers l'alternance des saisons, l'alternance de la ville et de la campagne. Et pourtant, malgré sa cohérence, cet univers correspond à une pure fantaisie, il correspond à la vision intérieure du peintre. L'éventail, enfin, est à la fois une relique et un fétiche. Il est d'autant plus précieux qu'il provient d'une époque et d'une société complètement disparue et qu'il évoque plutôt, l'intimité d'une courtisane royale, incarnation d'un XVIIIe siècle qui sera rêvé par le XIXe comme le siècle de la galanterie et de la féminité ou du féminin. Donc le compliment hypocrite de Pons à sa vieille tante, il est temps que ce qui a servi au vice soit aux mains de la vertu, résume bien sûr ironiquement le contraste entre les deux époques. Donc la plupart des éléments du mythe littéraire de Watteau sont présents dans cette scène, et en particulier, bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est le motif du secret. Donc ce motif, c'est celui du génie d'un artiste dont l'œuvre oubliée ressurgit au milieu du XIXe siècle. C'est aussi, et tout autant, le génie du collectionneur, méprisé par ses proches, mais élevé explicitement au rang d'artiste par Balzac, qui fait d'ailleurs de la figure du cousin Pons, je dirais, l'équivalent narratif de la peinture et du génie de Watteau. Le cousin Pons dans la scène est à la fois un artiste, un modèle et un tableau à peindre, nous dit le texte. Donc le secret de Watteau, c'est bien sûr aussi celui du regard qui a su le découvrir, soit le collectionneur, l'amateur, ce double fictif du romancier, mais aussi, on va le voir, du biographe. Ce que je voudrais montrer, c'est comment la biographie imaginaire, promet un peu de la même manière au lecteur le dévoilement d'un secret à double fond, entrer dans l'intimité du peintre, découvrir sa vie intérieure, doit conduire à percer le mystère de sa peinture, à comprendre le secret de son génie. Et dans tous les cas, ce secret en recouvre un autre, celui de l'expérience esthétique dont la biographie fictive exalte ou montre le mystère, la singularité. Donc je commence par le texte des frères Goncourt, donc ce portrait de Watteau, qui paraît finalement dans l'art du XVIIIe siècle, mais qui avant a connu une histoire éditorial assez longue et compliquée. C'est un texte qui a été publié plusieurs fois, donc je simplifie. Il est paru d'abord en 1856 sous un titre qui est en lui-même intéressant puisqu'il s'intitulait « La philosophie de Watteau ». Donc il paraît dans la revue L'Artiste. Puis il est repris en 1857 dans un ouvrage qui s'intitule « Les portraits intimes du XVIIIe siècle ». Recueil qui réunit effectivement des portraits de rois et de reines, d'hommes d'action du XVIIIe siècle, mais aussi d'actrices, de courtisanes et enfin de peintres et d'écrivains. Ces portraits, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont le résultat d'une enquête menée par les frères Goncourt, une enquête fondée sur la recherche et la collecte de documents du XVIIIe siècle, en majorité donc des lettres autographes qui figurent dans la collection personnelle des frères Goncourt et qui sont présentées par eux comme autant de traces de cette époque disparue. Dans la préface de ces portraits intimes du XVIIIe siècle, donc c'est la citation que vous voyez ici, les Goncourt expliquent comment leur méthode inaugure une forme nouvelle d'histoire. Donc je lis cette citation. « Les siècles qui ont précédé notre siècle ne demandaient à l'historien que le personnage de l'homme et le portrait de son génie. L'homme d'État, l'homme de guerre, le poète, le peintre, le grand homme de science ou de métier étaient montrés seulement en leur rôle et comme en leur jour public, dans cette œuvre et cet effort dont hérite la postérité. Le XIXe siècle demande l'homme qui était cet homme d'État, cet homme de guerre, ce poète, ce peintre, l'âme qui était en cet acteur, le cœur qui a vécu derrière cet esprit. Il les exige et les réclame. Et s'il ne peut recueillir tout cet être moral, toute la vie intérieure, il commande du moins qu'on lui en apporte une trace, un lambeau, une relique. Là est la curiosité nouvelle de l'histoire et le devoir nouveau de l'historien. » Donc on voit comment, effectivement, grâce aux documents retrouvés, les portraits intimes promettent le dévoilement, même parcellaire, d'une histoire jusque-là secrète, celle de la vie privée et même de la vie intérieure des hommes et des femmes du passé. Mais évidemment, cette histoire du XVIIIe siècle, elle est intime en un autre sens encore, fruit, comme on l'a vu, de l'étude, de la recherche assidue de reliques et de traces. Elle témoigne de la relation passionnelle et on peut dire quasi amoureuse, en tout cas très, très fantasmatique, des deux collectionneurs à leur époque préférée. Alors, ce portrait de Watteau, il va finalement paraître donc en tête d'un recueil, du volume que je citais en introduction, intitulé « L'art du XVIIIe siècle ». Donc, Watteau y occupe une place inaugurale, pas seulement parce qu'il est un peintre historiquement de transition entre le règne de Louis XIV et la Régence. Il n'est pas du tout contemporain de Madame de Pompadour. Donc, peintre de transition entre Louis XIV et la Régence. Mais surtout, pour les Goncourt, Watteau incarne ce qu'ils appellent l'âme du XVIIIe siècle. Donc, la place de choix qu'il lui réserve est une première forme de réhabilitation du peintre, relevant du geste souverain du collectionneur et de l'amateur. Et ce qui me semble, c'est qu'effectivement, dans la continuité des portraits intimes du XVIIIe siècle, l'esprit de collection inspire encore cet art du XVIIIe siècle. On va y retrouver non seulement des documents inédits tirés de la bibliothèque des deux frères, mais aussi un souci de composition du recueil. Ce sont des portraits, des monographies de peintres et d'artistes qui sont d'une certaine manière rangés, alignés, un peu comme dans la vitrine d'un collectionneur, selon un jeu assez soigneux de contrastes et d'écho. Par exemple, juste après Watteau, la deuxième monographie est consacrée à Chardin, qui apparaît très clairement comme son opposé. Donc Watteau est présenté comme le peintre d'un monde idéal, exaltant les loisirs de l'aristocratie, la grâce féminine. Chardin est, je cite, « le peintre bourgeois de la bourgeoisie, dont il représente fidèlement les simples et pures figures de peine et de travail hein, », donc jeu d'écho et de contraste. Alors la monographie consacrée ou le portrait consacré à Watteau est construit en diptyque, en deux parties très, très faciles à différencier. On a une longue évocation poétique de son univers pictural, dont je parlerai tout à l'heure, qui sert elle-même d'introduction à un document historique que produisent les frères Goncourt. Et ce document est présenté comme leur véritable trouvaille. Je cite « L'autre jour, chez un bouquiniste, le hasard nous a mis la main sur le manuscrit contenant cette infiniment précieuse vie d'Antoine Watteau par Monsieur de Caylus. C'est cette vie que nous donnons ici textuellement et intégralement pour la première fois au public. » Donc on voit bien comment la structure du texte est effectivement exemplaire de cette démarche heuristique des frères Goncourt. Le vieux manuscrit trouvé au hasard de leurs recherches est présenté vraiment comme la clé de l'œuvre de Watteau. En réalité, le secret de Watteau est déjà construit et révélé dans la première partie du texte, celle qui se veut une évocation de l'œuvre du peintre. Alors, il ne s'agit absolument pas d'un catalogue de description d'œuvres, de tableaux précis, mais plutôt d'une vaste synthèse qui se réfère allusivement à l'ensemble de la peinture de Watteau et qui en résume les principaux thèmes. Donc, Watteau, selon les Goncourt, a inventé une forme moderne de la grâce. Cette grâce moderne, elle est illustrée d'abord par ces figures féminines qui incarne, je cite, « toutes les séductions de la femme au repos ». Ce monde de la beauté féminine a lui-même pour décor une nature idéalisée qui est le reflet et la complice du bonheur humain. Elle est enfin cette scène, puisque cette peinture très clairement se construit comme une scène de théâtre, elle est enfin animée par la présence des comédiens italiens qui introduisent l'action et le mouvement du poème. Enfin, Watteau a mêlé les costumes de la mode française et ceux de la mode italienne. Son pinceau est comparé à des ciseaux qui ont, je cite, « découpé un univers idéal, un royaume de coquetterie dans le royaume embéguiné de maintenant ». Donc on voit comment la structure un peu énumérative de cette présentation est en fait corrigée par une narration sous-jacente qui mime la composition d'un tableau. L'écriture se rapproche ainsi du geste pictural, tout en développant un parallèle très systématique entre la peinture et le théâtre. Watteau est à la fois le metteur en scène, le décorateur, le costumier de ses œuvres. Cette peinture s'apparente à une scène imaginaire, un théâtre intérieur, comme le suggèrent également les comparaisons récurrentes avec l'univers des comédies de Shakespeare. Donc l'ensemble de ces procédés descriptifs justifie finalement l'image et l'équivalence entre le peintre et le poète qui apparaît en conclusion. Je cite « À quoi bon tirer son imagination du spectacle du monde quand on peut inventer un monde et un poème ? Poème unique et ravissant du loisir qui se balance, des entretiens et des chants du bel âge, de l'amusement pastoral et du passe-temps assis. » Alors, qu'il s'agisse du tableau fictif recomposé par le texte, ou ici des faux titres, ce sont des titres inventés, mais formés par recomposition de titres réels de tableaux de Watteau, la peinture de Watteau est à la fois désignée et dissimulée par le texte, qui ne fait appel à la mémoire picturale du lecteur que pour mieux stimuler son imagination. Le lecteur est ainsi intronisé dans l'univers intérieur du peintre, et il peut finalement recevoir la révélation de son secret. Donc je cite le passage où, me semble-t-il, le secret de Watteau est enfin à la fois élaboré et révélé. « Au fond de cette œuvre de Watteau, je ne sais quelle lente et vague harmonie murmure derrière les paroles rieuses. Je ne sais quelle tristesse musicale et doucement contagieuse est répandue dans ces fêtes galantes. L'homme passe au travers de son œuvre. » Cette œuvre, vous venez à la regarder comme le jeu et la distraction d'une pensée souffrante, comme les jouets d'un enfant malade et qui est mort. Ouvrons son œuvre, l'œil muet, il accompagne les embrassades, écoutant aimé, insoucieux, indifférent et morose, rongé d'ennui. On notera ici que le lecteur est directement interpellé par le narrateur. Le texte crée cet effet de conversation intime devant un tableau. Le lecteur est invité à regarder autrement la peinture de Watteau, à y découvrir effectivement une contradiction, une faille, qui ne serait autre que la tristesse, la mélancolie du peintre. Et c'est à ce moment-là que la biographie retrouvée du comte de Caylus est introduite comme pour justifier cette interprétation des Goncourt. Or, si Caylus insiste effectivement dans sa biographie, ce témoin donc de la vie de Watteau, s'il insiste sur la maladie du peintre qui est mort à 37 ans, s'il parle effectivement de son tempérament mélancolique, il ne fait jamais le lien avec sa peinture, pas plus d'ailleurs qu'aucun des contemporains de Watteau. Les Goncourt sont en fait les premiers à associer le caractère du peintre à son œuvre, à déceler dans ses tableaux une tristesse, une mélancolie qui ne s'appuie sur aucun élément iconographique précis. Ici, il n'y a pas de code hein, qui permet d'affirmer cela, mais qui relève bien de la subjectivité de leur regard. J'ajouterais que cette mélancolie qu'ils prétendent découvrir dans les tableaux, elle a été suggérée dès le début du texte par l'ambiguïté de l'écriture. Le champ sémantique dominant est celui de l'oisiveté, du loisir, hein, c'est des tableaux qui peignent les loisirs de l'aristocratie, mais il s'infléchit progressivement sous la plume des Goncourt vers celui de la fatigue, du repos et de la mort. Je cite brièvement « Ils enchantés qu'un ruban de cristal sépare de la terre, ils sans soin ni cure, où le repos cause avec l'ombre, promenade sans but et au petit pas, repos accoudé devant le repos des nuages et devant le repos de l'onde, Champs-Élysées du maître, un l'été roule le silence par ce pays d'oubli, peuplé de figures qui n'ont que des yeux et des bouches, une flamme et un sourire. » Donc on voit très bien comment les Goncourt projettent effectivement sur cette peinture leur propre nostalgie du XVIIIe siècle. Ils y décèlent ce que Jean-Louis Cabanès appelle une morbidité, qui est pour eux synonyme de décadence, et ils voient dans cette peinture, effectivement, l'annonce prophétique de la fin de l'Ancien Régime. Watteau incarne aussi, pour les Goncourt, on a vu l'art du XVIIIe siècle, un art qu'ils définissent comme celui de la grâce féminine, exaltant ce qu'ils appellent ailleurs la libidinerie humaine, mais il est aussi pour eux un peintre du désir sans désir, profondément indifférent au bonheur qu'il représente. Alors, cette distance évoque évidemment la figure des deux frères célibataires, dont le culte fétichiste qu'ils vouent à l'art du XVIIIe siècle a tout d'une rêverie compensatoire, ce qu'ils expriment d'ailleurs très très directement dans leur propre journal. Loin de la publicité du musée, c'est dans l'espace privé, réservé du texte, que les Goncourt cherchent à partager cette relation qui les unit aux objets de leur désir. Comme si le secret de Watteau ne pouvait se révéler qu'à l'écart de sa peinture, ou du moins dans une vision indirecte, par le truchement du regard passionné, vraiment subjectif, de l'écrivain collectionneur. C'est vraiment une écriture de la collection. J'en viens au deuxième portrait dont je voulais vous parler. Donc, il s'agit d'un texte publié en 1887 par l'écrivain et critique d'art anglais Walter Pater. Cette vie de Watteau paraît en tête d'un recueil intitulé donc Les portraits imaginaires, on retrouve ce terme du portrait. Le texte est un peu original à l'intérieur du recueil puisqu'il s'agit du seul portrait consacré à un personnage historique, les trois autres portraits étant ceux de figures totalement fictives. Et le texte sur Watteau est également original par sa forme, puisqu'il est écrit sous la forme d'un journal intime, attribué à une narratrice féminine, qui restera anonyme jusqu'au bout, mais que le lecteur un peu cultivé ou averti, je ne sais pas très bien de quel type de clin d'œil il s'agit ici, en tout cas le lecteur finit par l'identifier, cette narratrice, comme étant Marie-Marguerite Pater, la sœur aînée du peintre Jean-Baptiste Pater, qui fut l'unique élève officiel de Watteau, et qui est bien sûr un ancêtre supposé de Walter Pater. Donc un premier secret du texte réside dans ce lien généalogique discret entre la diariste et l'auteur. Quant à la forme même du journal intime, elle est éclairée par le sous-titre, puisque le texte est intitulé « Un prince des peintres de cour », mais sous-titré « Extrait d'un vieux journal français ». Donc comme les Goncourt, dont il s'inspire très étroitement, Pater associe le portrait de Watteau à l'exhumation d'un vieux manuscrit, sauf qu'il s'agit cette fois-ci d'un texte entièrement fictif. Et ce vieux journal est présenté d'emblée comme incomplet, lacunaire, ce ne sont que des extraits d'un vieux journal français, sans que davantage de précision ne soit donnée, ni sur les circonstances de sa découverte, ni sur le contenu, la nature exacte des coupures qu'il a subies. En fait, le sous-titre, extrait d'un vieux journal français, semble avoir surtout pour fonction d'attirer l'attention du lecteur sur l'importance des silences, des omissions de ce texte, Et ça permet de placer le texte dans une relation d'équivalence avec la peinture de Watteau. Dès les premières lignes, en effet, le père de la narratrice, qui est lui-même peintre, fait remarquer que Watteau use, je cite, « d'un art merveilleux d'omission » et joue dans ses toiles une sorte de comédie qui ne serait qu'une tragédie à l'envers, où l'on retrouve la vision des frères Goncourt. Autre paradoxe de ce journal fictif, l'écriture autobiographique de la narratrice est démentie par son point de vue, puisqu'en fait, elle ne parle pratiquement jamais d'elle-même, mais se concentre entièrement sur la carrière d'Antoine Watteau et accessoirement sur celle de son frère. Donc le journal commence en septembre, il est évidemment comme tout journal, il est précisément daté, il commence en septembre 1701, au moment où Watteau entre comme apprenti chez le père de la narratrice, puis il raconte, mais de loin, la carrière fulgurante du peintre à Paris, avec quelques rares retours dans sa ville de Valenciennes, et enfin le texte s'achève à la mort du peintre en 1721. Donc on voit comment la voix de la diariste imaginaire ne survit pas à son unique fonction, l'exploration passionnée du mystère de Watteau et de sa peinture. On peut ajouter que ce journal fictif évoque une œuvre et un personnage qui sont la plupart du temps absents, visibles simplement par intermittence, et fonctionnent sur une relation à sens unique. La narratrice qui suit à distance la carrière du peintre, dont on comprend assez vite qu'elle en est amoureuse, est en revanche constamment ignorée par Watteau. Donc la fiction revendiquée par le titre des portraits imaginaires ne donne jamais accès directement au monde intérieur du peintre. Elle consiste simplement en une mise en scène du regard du spectateur ou du critique qui est symboliquement incarné par cette narratrice amoureuse. Et dans les dernières pages de son journal, donc peu avant la mort de Watteau, elle va nous livrer finalement ce qui peut être considéré comme la clé, une espèce de formule permettant d'éclairer à la fois la vie et l'œuvre de l'artiste. Donc c'est la citation qui est affichée ici, je vais la couper un peu. Il me semble que si Watteau illustre si bien à sa propre satisfaction ce monde des élégances, avec ses dames à poudre et à mouche et ses beaux cavaliers, c'est en partie parce qu'il le méprise. Lui qui appartient vraiment au vieux temps, à ce temps grave qui s'en va et dont sa physionomie garde l'empreinte, il anoblit par tout ce qui n'est ni plus ni moins en lui qu'une mélancolie profonde, l'insignifiance essentielle de toutes ces nouveautés. Il ne surmontera jamais l'influence de ses premières années, toutes ces choses légères conserveront toujours à ses yeux une sorte de valeur représentative ou empruntée, caractériseront ce monde impossible ou défendu que le fils du maçon contemplait à travers les portes closes du jardin enchanté. Donc ces grâces futiles et mièvres ressuscite pour lui par le pouvoir de l'association, et même maintenant qu'il en a compris la vraie insignifiance, toute la vieille griserie magique de son rêve d'un monde meilleur que le monde réel. Donc on voit ici comment le regard amoureux de la narratrice prétend remonter à la source, c'est-à-dire à l'intention originelle, et deviner dans l'œuvre un sens qui échappe à son créateur lui-même. Marie-Marguerite réussirait ainsi symboliquement là où Watteau avait lui-même échoué. Donc dans la fiction de Walter Pater, le peintre entame un portrait de la jeune femme, il le laisse inachevé, alors qu'elle, en revanche, parvient à découvrir le lien secret unissant la vie et l'œuvre de l'artiste. Donc le faux journal intime est en réalité le véritable portrait, c'est-à-dire le portrait achevé du peintre. Donc il me semble que Walter Pater pousse encore plus loin que les frères Goncourt cette espèce de jeu d'équivalence et de rivalité entre texte et image. Ce jeu implique une certaine occultation de l'image réelle, donc les tableaux de Watteau sont très peu présents dans ce texte, au profit de la mise en scène du regard critique. Affranchi des contraintes de l'objectivité, ce dernier peut projeter une libre interprétation, faire surgir une intention secrète de l'artiste, dont les œuvres ne seraient plus que des traces. Ce regard devient ainsi pleinement créateur, ce que suggérait déjà en 1897 l'écrivain Arthur Symons à propos des essais de critiques, à la fois littéraires et picturaux, de Walter Pater. Je cite « Sa critique ressemble à une baguette divinatrice qui révèle le secret des sources. Il possède une faculté unique de voir, sous chaque imperfection, l'œuvre parfaite, l'œuvre telle que la voyait l'artiste, telle qu'il s'efforçait de la voir et la manqua dans la mesure même de ses moyens. Alors je voudrais insister quand même pour finir sur cette vie imaginaire de Watteau, sur l'importance du thème de la frustration dans ce portrait littéraire. Le désir refoulé, la jalousie inconsciente de la narratrice explique son rejet du plaisir et de la galanterie célébrés dans les peintures de Watteau. Il semble que, comme celui du collectionneur, le regard du critique projette ainsi une part de sa propre frustration sur l'œuvre admirée. Et en l'occurrence, cette frustration est transmise au lecteur, car le secret de la peinture de Watteau ne lui est révélé qu'au prix d'une certaine occultation de son œuvre. Cette peinture est singulièrement absente du texte. Alors, j'insiste sur ce désir refoulé parce que dans la biographie de Watteau par Pierre Michon, avec laquelle je voudrais terminer cette présentation, c'est au contraire la sensualité, le désir qui sont immédiatement mis en valeur. La nouvelle s'ouvre en effet sur cet aveu un peu étonnant du peintre, au narrateur. Donc le texte de Pierre Michon s'intitule « Je veux me divertir ». Dans sa jeunesse, ne pas avoir toutes les femmes lui avait paru un intolérable scandale. Qu'on m'entende bien, lui, on ne peut plus l'entendre. Il ne s'agissait pas de séduire. Il avait plu, comme tout un chacun, à ses 2, 7, 30 ou 100 femmes qui à chacun sont imparties, selon sa taille, sa figure, son esprit. Non, ce dont il enrageait dans la rue et dans les coulisses et les échoppes, à la table de tous ceux qui l'accueillirent, chez les princes et dans les jardins, partout enfin où elle passe, c'était de ne pouvoir arbitrairement décider de disposer d'une, épouse du mécène, fillette ou vieille catin, de l'index la désigner, qu'à ce geste elle vint et tout aussitôt s'offrit, et que la jetant là ou l'emportant ailleurs, tout aussitôt, il en jouit. Donc je passe la fin. Donc la révélation du secret, ici associée au scandale, est immédiate. Cet aveu est pratiquement placé en exergue du texte et il semble l'inspirer tout entier. En même temps, ce secret relève largement du leurre et de la mystification. Donc immédiatement après cette ouverture, celui qui a recueilli cette confidence de l'artiste se présente. C'est un prêtre, un humble curé, et il raconte effectivement comment il a rencontré Watteau à Nogent, comment il lui a servi de modèle pour le Gilles et comment il l'a recueilli des années plus tard. Il a recueilli le peintre qui s'est réfugié à nouveau à Nogent où il est mort. Donc le curé se présente, il se nomme, c'est l'abbé Caro. Le nom du peintre, en revanche, reste caché pratiquement jusqu'à la dernière page du texte et il n'est révélé qu'au moment de l'agonie. Donc tout se passe comme si la personne de Watteau, sa signature en quelque sorte, disparaissait derrière les multiples références qui lui servent de modèle. Sous la plume de Michon, Watteau est tour à tour Don Juan, c'est le titre, Barbe Bleue et Marquis de Sade. Car si Michon refuse très clairement le cliché romantique du peintre mélancolique et sans désir, c'est pour en lui en substituer un autre, la figure du Don Juan libertin. Comme Michon le reconnaît, à une série d'images, je cite ici un de ses entretiens, à une série d'images d'Épinal, on ne peut qu'en ajouter de nouvelles, éclairantes et mystificatrices à la fois. Et Michon précise encore que ses vies de peintre s'apparentent à des hagiographies dans lesquelles l'ancienne croyance dans les arts tient peut-être la place que Dieu y occupait. Donc comme dans toute hagiographie, le moment clé c'est celui de la conversion ou de l'appel de la vocation. Comment devient-on Goya? Comment devient-on Watteau ou Piero de la Francesca? Telles sont les questions que ne cesse de poser Michon dans Maître et serviteur. Et c'est plus largement le mystère de la vocation artistique ou littéraire, la question qu'il pose dans l'ensemble de son œuvre. Or, si la pseudo-confession du peintre au curé de Nogent semble donner le secret de la genèse de son œuvre, genèse obscure, c'est finalement pour mieux mesurer l'écart entre cette œuvre et son intention. Je raconte ici la fin de la nouvelle. À la veille de sa mort, Watteau demande au curé de détruire la partie cachée de son œuvre, un ensemble de toiles inconnues du public, qu'il garde enfermées dans une aile de sa maison comparée au cabinet de Barbe Bleue. Et sur ces peintures que personne n'a vues, sauf le malheureux curé, ou le bienheureux, je ne sais pas, sur ces peintures, Watteau a peint le véritable objet de son désir, je cite, « seulement des femmes toutes nues, au comble du plaisir, jouissant avec emphase sur un tapis de robes volantes et de feuilles, au fond de ces bois dont il avait toujours peint l'orée. » Alors par ce curieux auto-da-fé, Watteau ne reconnaît pas simplement une forme d'échec, il accepte surtout de devenir le peintre à la mode, dans lequel la société de cour a voulu se reconnaître. L'art des fêtes galantes célèbre et idéalise l'amour sous sa forme socialisée, d'une certaine manière, c'est-à-dire socialement acceptable. Le secret du peintre courtisan est donc aussi celui d'une époque qui aurait cherché à sublimer le désir par les codes de la bienséance. En doublant la peinture de Watteau d'une œuvre invisible et scandaleuse, Pierre Michon invite à nouveau le lecteur à la voir autrement, un peu comme le visiteur actuel du Prado pense inévitablement aux peintures noires de Goya lorsqu'il regarde sa peinture officielle. Initié au secret fictif de Watteau, le lecteur retrouve sous la grâce un peu désincarnée de ses peintures une nouvelle charge d'érotisme et de violence. Je dirais que là, on a beaucoup parlé de triangle. La fiction biographique fonctionne sur le modèle du triangle, mais j'ai pensé aussi au triangle amoureux de René Girard. Sauf qu'ici, le secret apparaît comme le meilleur conducteur du désir. Et j'en terminerai là-dessus. J'ai trouvé par hasard un passage des Jeunes filles en fleurs de Proust qui illustre parfaitement ce mécanisme et qui semble d'une certaine manière faire directement écho au texte de Pierre Michon. Donc je terminerai par cette citation que je trouve, je la commenterai pas, mais je la trouve assez extraordinaire. Le narrateur, il s'agit d'un passage où le narrateur, il s'agit d'une scène de mondanité dans un restaurant. Le narrateur observe son ami Saint-Loup entouré de femmes. Et il suppose aussitôt qu'il s'agit des anciennes maîtresses de Saint-Loup. Et ce secret supposé leur donne un pouvoir de séduction accru à ses yeux, un pouvoir qu'elles n'auraient pas sans cela. Or, ce qui est intéressant ici, c'est que le regard du narrateur sur ces femmes est aussitôt comparé au regard qu'il pourrait porter sur des peintures et sur des peintures de musée. Donc je lis ce texte. « Entre elle et lui, je surprenais un regard d'intelligence. J'aurais voulu qu'il me présentât à ces femmes, pouvoir leur demander un rendez-vous et qu'elles me l'accordassent, même si je n'avais pas pu l'accepter. Car sans cela, leur visage resterait éternellement dépourvu, dans ma mémoire, de cette partie de lui-même, et comme si elle était cachée par un voile, qui varie avec toutes les femmes, que nous ne pouvons imaginer chez l'une quand nous ne l'y avons pas vue, et qui apparaît seulement dans le regard qui s'adresse à nous, et qui acquiesce à notre désir, et nous promet qu'il sera satisfait. Sans doute, il n'était pas pour moi ce qu'il devait être pour Saint-Loup, qui par la mémoire, sous l'indifférence pour lui transparente des traits immobiles qui affectaient de ne pas le reconnaître, ou sous la banalité du même salut que l'on eût adressé aussi bien à tout autre, se rappelait, voyait entre des cheveux défaits, une bouche pâmée et des yeux mi-clos, tout un tableau silencieux comme ceux que les peintres, pour tromper le gros des visiteurs, revêtent d'une toile décente. Certes, pour moi au contraire, qui sentais que rien de mon être n'avait pénétré en telle ou telle de ces femmes et n'y serait emporté dans des routes inconnues qu'elle suivrait pendant sa vie, ces visages restaient fermés. Mais c'était déjà assez de savoir qu'ils s'ouvraient pour qu'ils me semblassent d'un prix que je ne leur aurais pas trouvé s'ils n'avaient été que de belles médailles au lieu de médaillons sous lesquels se cachaient des souvenirs d'amour. Donc il me semble que la comparaison filée avec la peinture ou les images a ici un rôle d'indice. La scène muette observée par le narrateur depuis l'extérieur du restaurant devient progressivement un tableau. Les femmes exposées au regard de tous, comme les peintures dans un musée, n'y sont désirables que dans la mesure où le regard d'un tiers permet de leur attribuer un secret dans lequel seul le narrateur serait admis. Donc sous la scène mondaine de Proust, comme sous la peinture galante de Watteau, se joue alors une autre scène réservée au regard des initiés. Dans ces trois vies imaginaires, le secret de Watteau tourne plus ou moins autour de la question de sa vie amoureuse, du désir du peintre, que le texte cherche à dévoiler un désir éteint, un désir sublimé ou exacerbé, il prétend donner accès à une forme d'intimité avec le peintre. Loin de la publicité des musées ou des malentendus de la gloire, dans le cadre de la biographie de Pierre Michon, il s'agit de révéler ce que la peinture de Watteau cache, ou bien ce qu'elle ne saurait montrer, sinon par l'intermédiaire de la fiction, qui invente une relation d'exclusivité avec le peintre. Collectionneur fétichiste, jeune fille amoureuse ou prêtre confesseur sont autant de figures d'initiés, détenteurs d'un secret qui finalement ne connaît pas de plus grand danger que celui d'être trop largement partagé. Alors effectivement, le secret de Watteau est devenu un cliché et beaucoup de spécialistes contemporains de son œuvre se demandent s'il est possible de la regarder autrement, en la débarrassant de son mystère et de sa mélancolie, un peu comme on débarrasse les tableaux anciens de leur vernis. Effectivement, cette mélancolie secrète n'est peut-être qu'une construction littéraire romantique, ce que semblent confirmer, encore une fois, les biographes contemporains du peintre, dont on sait que l'œuvre a rencontré un succès immédiat, qu'elle a été appréciée et collectionnée dans l'Europe entière, comme vraiment une peinture d'agrément, célébrant le plaisir et la galanterie. Il reste que devant un tableau de Watteau, tout spectateur est immédiatement confronté à une difficulté à la fois très simple et très profonde, qui est celle de décrire précisément ce qu'il voit. Ces peintures ne sont ni historiques ni anecdotiques, et ce qu'elles représentent reste énigmatique. Qui sont les personnages ? Avons-nous affaire à des aristocrates déguisés ou à des acteurs au repos ? La scène est-elle jouée ou est-elle réelle ? Se déroule-t-elle à l'aube ou au crépuscule ? Les personnages s'éloignent-ils vers l'arrière-plan du tableau ou se rapprochent-ils ? Et même, s'agit-il de personnages différents ou bien toujours de la même figure ou des mêmes couples représentés à plusieurs moments successifs de leur histoire ? Donc c'est peut-être parce que, précisément, il n'y a pas ce sens décodable que la peinture de Watteau suscite de manière irrépressible l'écriture. Et j'en veux pour preuve le fait que ce phénomène en fait s'observe dès l'époque de Watteau elle-même, précisément à cause, je ne sais plus si c'est la cause ou la conséquence, mais cette œuvre a très vite circulé sous la forme de gravures. Elle a très vite été reproduite sous la forme de gravures qui ont contribué à son succès. Or, sur ces premières gravures, dont on connaît généralement l'auteur, une main qui, elle, est anonyme, a systématiquement ajouté un titre à des œuvres qui, pour la plupart, n'en comprenaient pas, et parfois même des petits poèmes anecdotiques qui servent de légende à la peinture. Donc tout se passe comme si le texte avait presque immédiatement cherché à expliciter ce secret de la peinture, à combler en quelque sorte ce vide sémantique par une première interprétation qui se présente souvent d'ailleurs comme une amorce de récit. Dans ces poèmes, ou même dans les titres, il y a quelque chose qui crée un effet de récit. Je dirais que le secret de Watteau est encore pour conclure très rapidement, me semble-t-il, encore de beaux jours devant lui. Et je n'ai pas cité des textes ou des films plus récents qui reposent précisément sur ce ressort. Voilà.